Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir à 20h45, France 3 nous propose un nouveau numéro de son magazine d'histoire, L'ombre d'un doute, présenté par un certain Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Ce soir, nous allons parler de Louis XV et de ses rapports avec les femmes. Vous savez que ce roi a eu de nombreuses maîtresses, dont Madame de Pompadour et Madame du Barry ne sont finalement que les plus célèbres. Eh bien, nous allons mener l'enquête pour établir jusqu'où ces liaisons, souvent dangereuses, dirais-je avec un gros jeu de mots, dangereuses pour la réputation de Louis XV, jusqu'où ces liaisons étaient pilotées dans l'ombre par des gens qui en tiraient les ficelles.
Mais cet après-midi, c'est d'un souverain beaucoup plus sage que vous avez choisi de nous parler.
Oh oui, l'empereur Charles Quint n'était certes pas un donjon, mais quoique, nous verrons qu'il avait un certain succès auprès de certaines femmes. C'est une figure passionnante en tout cas. C'est une de nos fidèles auditrices, Françoise, qui nous a proposé le thème et je l'en remercie, c'est un très beau sujet. Pour nous aider à mieux connaître Charles Quint, j'ai invité à nous rejoindre l'excellent Jean-François Saulnon.
Et pour terminer, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julien et Sophie sur l'origine de la fête des rois qui approche.
Je crois que vous avez ajouté Sophie juste avant l'émission.
Exactement.
Elle a posé la question ce matin même, mais
tout
voyez, nous
fait.
Sommes réactifs, nous avons nous aussi un certain esprit d'à-propos. Je vous dirai en effet depuis quand on tire les rois. Pour le moment, un vieil empereur très serein nous attend au monastère de Yuste en Estrémadour.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
De l'histoire comme des familles ou des entreprises, on n'y maîtrise pas toujours sa réputation. D'où vient-il que certains personnages infectent soient tout à fait populaires, alors que d'autres, infiniment plus dignes de l'affection générale, sont repoussés, relégués dans les marges d'une histoire qui ressemble parfois à de véritables oubliettes? Ça ne relève finalement jamais de la raison, cette question-là. Lorsque j'ai travaillé à mon dernier livre sur François Ier, j'ai été surpris pour le moins de l'extrême popularité de ce roi de France, pourtant si peu digne d'éloge, me semble-t-il, alors que son principal adversaire, l'empereur Charles Quint, jouit de nos jours encore d'une réputation assez peu flatteuse, notamment de ce côté-ci des Pyrénées, il faut bien le dire. Et si, me suis-je demandé, et si Charles Quint méritait mieux que les reproches faciles qu'on lui adresse? Sombre, rigide, avare, étroit d'esprit, calculateur, hypocrite, abîmé en dévotion. Ainsi nous le décrit-on à longueur de pages et de chroniques depuis 5 siècles. En tout cas, ainsi le décrit-on au public français. Il me semble que l'heure est venue de déchirer ce rideau trompeur. Alors il s'ouvre, ce rideau, sur un beau paysage tout verdoyant, tout apaisé. Nous sommes, comme je vous le disais à l'instant, au monastère de Yuste, en Estrémadour. On est tout près de Plaisance, à l'ouest de Madrid, à mi-chemin, si vous voulez, de la capitale de Castille et de la côte portugaise. Un vrai décor de roman chevaleresque, avec ses hauts murs percés de galeries romanes, avec ses cheminées droites comme les grands chênes et les pins tout alentour, une colline au fond, tout en douceur, en verdure, sur le bleu d'un ciel drapé à l'espagnol. Edmond Giscard d'Estaing, le père du président, s'est intéressé jadis d'assez près à ce monastère des Hiéronymites de Yuste, ou de Yuste, si vous voulez la jouer espagnole, et il en a retracé l'histoire, je le cite. Le 3 février 1557, vers 3 heures, Charles Quint quitta Ranradilla, où il avait attendu que fût terminé l'aménagement de la demeure qu'il voulait habiter dans le monastère de Yuste. À l'instant où la litière s'ébranla, les hallebardiers en rang jetèrent leurs piques à terre pour témoigner que le plus grand monarque du monde n'avait plus besoin d'une garde armée, puisqu'il allait vivre comme un pieux solitaire. 2 heures plus tard, le cortège arrivait à la porte du couvent, les cloches sonnaient à toute volée, Charles, marchant avec peine, monta sur un fauteuil à brancard que l'on porta au pied du maître-autel de l'église et il y reçut l'hommage de ceux dont il allait être l'hôte. Le prieur, fort intimidé, s'avança pour prononcer un discours de bienvenue et commença « Votre paternité !» Mais son voisin lui souffla « Dites votre majesté !» Ainsi commençait le séjour de Charles Quint, qui devait durer jusqu'à sa mort, survenue 1 an et demi plus tard. Il faut vous dire que ça n'est pas, et loin s'en faut, le premier séjour que Charles Quint effectue dans un monastère. On l'avait vu notamment s'installer chez les religieux de Sisla, juste après la mort de sa femme adorée, Isabelle de Portugal, en 1539. On l'avait vu 2 ans plus tard s'installer à la Mejorada, juste après le désastre d'Alger, quand toute sa flotte avait été envoyée par le fond. Cet homme qui était sujet, sinon tout à fait à la dépression, disons en tout cas à des crises aiguës et répétées de déprime, avait tendance dans ces situations-là à se recueillir dans les monastères, à se retirer du monde en quelque sorte. 2 ans avant son abdication, le 13 décembre 1553, il écrivit à son fils de faire bâtir contre le monastère de Yust une habitation suffisante pour vivre avec la suite des serviteurs les plus indispensables à une personne dans une condition privée. C'était bien ainsi que l'empereur, ou plutôt l'ancien empereur, l'entendait. Il entendait devenir un particulier, comme on disait à l'époque. Le monastère des Hiéronymites, pour nous le décrire aujourd'hui, s'élève au milieu d'une forêt de noyers et de châtaigniers occupant le flanc sud des montagnes d'Estramadour, nous dit Edmond Giscard d'Estaing. Il est dans un mauvais état depuis qu'il a été incendié pendant les guerres napoléoniennes. Tout ça s'est d'ailleurs un peu arrangé depuis quelques temps. Mais du moins, il est toujours debout. Un grand portail tout simple s'ouvre dans le mur d'enceinte comme pour donner accès à quelques fermes importantes. Sur le flanc sud de l'église, le long de la nef et contre le transept, s'élèvent les constructions que fit édifier Charles Quint. Sa demeure se compose d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, lequel est intact. On arrive à ce dernier par une pente douce d'une 20aine de mètres, en briques moussues, bordée d'un parapet qui aboutit à une petite terrasse abritée par un auvent. Une porte donne accès à un couloir conduisant à 4 chambres, dont 2 était l'appartement personnel de Charles Quint. Comme toutes les personnes d'un certain rang en son temps, il vivait en effet essentiellement dans un grand cabinet et dans une grande chambre, parce qu'il y avait des petits cabinets, des petites chambres derrière. Alors, le cabinet, il n'est pas si grand que ça, il fait 8 mètres sur 7. Évidemment, pour nous, ça paraît pas mal, mais pour un empereur, pour le premier prince de la chrétienté, vous avouerez que c'est pas extraordinaire. Et alors, il y a 2 fenêtres qui s'ouvrent sur la Vera de Plasencia, qui donc ce paysage à l'infini qu'on peut admirer depuis cette pièce. Et puis, la chambre elle-même d'assez modeste dimension, enfin là encore tout est relatif, elle fait 50aine de mètres carrés, disons. Cette chambre comporte une porte placée au niveau du maître-autel de l'église, ce qui fait que quand vous l'ouvrez, et elle était presque toujours ouverte, l'empereur pouvait, depuis sa chambre et même s'il le fallait, depuis son lit, assister à la messe, j'ai envie de dire, il était aux premières loges. Il faut vous dire que c'est un homme particulièrement religieux dont nous allons parler aujourd'hui et qui en plus se trouve alourdi, si je puis dire, empesé par des deuils successifs. Il a perdu sa femme et là, il vient tout juste de perdre sa mère. Il est désormais toujours en grand deuil, toujours en noir. Et mieux que ça, il a demandé que toutes les cloisons de son appartement soient tendues de grands draps noirs. Même les miroirs du monastère sont voilés de noir. Le moins qu'on puisse dire est que l'atmosphère qui entoure l'empereur à son agonie n'est pas une atmosphère très joyeuse.
De Sanctus de Cristobal de Morales. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au monastère de Yust et à Charles Quint.
Alors, comment Charles Quint s'est-il retrouvé comme ça dans un monastère loin du monde, lui qui était quand même non seulement le roi d'Espagne et de toutes les possessions espagnoles, c'est-à-dire non seulement toutes les terres héréditaires, je pense aux Pays-Bas, etc., et puis à tout ce qu'il avait en Italie, sur la péninsule italique, mais aussi bien entendu à l'immense empire des Amériques, et puis aussi empereur, car depuis 1519 il était l'empereur du Saint-Empire romain de Germanie. Comment se retrouve-t-il dans ce monastère? Eh bien, il faut vous dire qu'au mois d'octobre 1555, une nouvelle avait parcouru littéralement la planète. L'empereur avait décidé de renoncer au trône. Alors, pour ce qui est de ses possessions héréditaires, il avait l'intention d'y renoncer en faveur de son fils, le roi Philippe, qui allait devenir donc le roi des Espagnes, hein, Philippe II. Et puis, pour tout ce qui relevait du Saint-Empire, c'était son frère Ferdinand qui devait prendre la suite. La nouvelle a été mal accueillie, il faut bien le dire, aussi bien dans ses possessions que dans le reste de l'Empire, à Bruxelles, à Gand, à Anvers notamment. On regrettait déjà ce souverain qui, ne l'oublions pas, était flamand dans sa culture, dans ses origines, dans son éducation. Et donc on craignait beaucoup ses successeurs espagnols, ou plus espagnols, si je puis dire. Si vous vous promeniez dans sur les places de marché, dans les boutiques et les cabarets de toute la Flandre de l'époque, ce n'était que lamentation. L'annonce de la prochaine abdication de Charles Quint ne surprit pas moins toute l'Europe, nous dit Jacques Janssen. Charles, roi d'Espagne, de Sardaigne, de Sicile et de Naples, souverain des Pays-Bas, dominateur du Nouveau Monde, élu du Saint-Empire, ce monarque puissant et redouté sur les États de qui, comme disait un contemporain, le soleil ne se couchait jamais, l'héritier de la maison de Bourgogne, le vainqueur de Pavie et de Tunis, l'adversaire de François Ier et de Henri II, renonçait volontairement au pouvoir, se dépouillait spontanément de ses dignités. Et Jacques Janssen ajoute cette comparaison que je trouve très juste. Depuis la retraite de Dioclétien 12 siècles et demi plus tôt, on n'avait pas assisté à pareil spectacle. Et dans les capitales étrangères, aussi bien que dans les bonnes villes du cercle de Bourgogne, on s'interrogeait sur les motifs qui avaient bien pu inspirer la décision de l'empereur. C'est très juste cette comparaison avec Dioclétien, qui est le seul des grands empereurs romains à s'être lui aussi retiré comme ça dans son palais extraordinaire sur la mer Adriatique. Palais dont il reste aujourd'hui d'ailleurs de très beaux vestiges. C'est un peu la même histoire. Charles Quint, empereur tout-puissant, décide de se retirer, de se retrancher du monde. Il n'a pourtant que 55 ans à l'époque, mais disons-le, il a beaucoup souffert dans tous les domaines. Il est prématurément vieilli. Vous voyez à peu près à quoi ressemble Charles Quint. Hein. Nous avons tous les portraits, non seulement de Titien, mais vous avez tous ces portraits qui le représentent voûté, le visage olivâtre, les traits émaciés qui sont encore accentués par le prognatisme des Habsbourg. Vous savez, ce menton en galoche, si je puis dire. Les yeux un peu éteints, le teint parcheminé, c'est un vieillard au souffle court qui est devenu presque impotent parce qu'il souffre depuis des années déjà de récurrentes attaques de gouttes. Vous savez, cette maladie terrible et qui était bien entendu accentuée, aggravée par le régime et notamment par le régime alimentaire de Charles Quint, qui n'aimait que les viandes en sauce, qui n'aimait que les épices, qui aimait les sucreries et les confitures de tous ordres. Tout ça, évidemment, n'était pas bon pour ceux qu'il avait, comme on dit. Et c'est certain que ça a dû considérablement aggraver son état. Mais les premières attaques de gouttes, il les subit dès sa jeunesse, avec des crises de plus en plus fréquentes, de plus en plus aigu, qui, évidemment, entraîne chez lui des insomnies, d'où une fatigue permanente. Et quand vous avez à gérer toutes les affaires d'un gigantesque empire, vous imaginez bien que un tel état de santé n'est pas la meilleure des conditions. Il a dû, par ailleurs, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il a finalement abdiqué, il avait dû renoncer à tous ses grands projets, aux très hautes ambitions qui le menaient, pensait-il, à fonder la chrétienté universelle. Il voulait créer une sorte d'empire universel au service qui serait en quelque sorte le bras armé de la Sainte Église. C'est ainsi que Charles Quint voyait les choses. Et là aussi, il avait évidemment été battu par le sort, il faut bien le dire. Alors, je vous ai parlé des deuils et des chagrins qui l'avaient frappé, la mort de sa femme Isabelle de Portugal, les revers militaires, tous les échecs politiques qui l'avaient peu à peu rendu assez amer, et d'autant plus amer qu'il sentait dans son entourage proche, et notamment chez son propre fils Philippe, qui était d'un tempérament extrême, extrêmement fort, un peu comme le sien. Il sentait l'envie d'en découdre et le besoin de régner. Et il y avait autour de Philippe toute une espèce de petite camarilla qui voulait évidemment le pouvoir et qui menait la vie dure au vieux roi et empereur. Et puis, ne l'oublions pas, et ça a sans doute compté encore bien plus que tout le reste dans sa décision de se retirer au monastère, il y avait cet esprit religieux. Charles Quint avait bien l'intention de consacrer ses derniers instants à la religion et à préparer son âme à Dieu. C'est ainsi qu'il voyait les choses. Les événements politiques et militaires avaient fait hésiter Charles, nous dit Jacques Janssen. Il eût voulu se retirer seulement après avoir conclu la paix avec la France. Or, l'attitude de Henri II attestait qu'il était décidé à poursuivre la lutte. Aussi, sans attendre davantage, l'empereur, dont les souffrances avaient beaucoup augmenté au cours de l'hiver précédent, s'était-il décidé à suivre l'inclination de son cœur. Il y avait été encouragé par ses sœurs, et ça aussi c'est un élément qui a pesé dans la balance, les reines douairières Éléonore de France et Marie de Hongrie, Éléonore donc qui avait dans un premier temps épousé le roi de Portugal, puis avait été la seconde épouse du roi François Ier, et Marie de Hongrie qui avait régenté en tout cas les Pays-Bas, toutes deux lui avaient même proposé de le suivre dans la retraite qu'il s'était choisie en Espagne, sous un ciel plus clément que celui des Pays-Bas. Et voilà donc Charles qui se décide à remettre ses états héréditaires à son fils, comme je vous l'ai dit, en commençant par les Pays-Bas, et puis à transmettre la couronne impériale à celui qui déjà, en qualité de roi des Romains, c'était son titre, faisait figure de successeur désigné, c'est-à-dire son frère Ferdinand. Il y a un peu de solennité à tout ça, bien entendu. Vous imaginez qu'on réunit les États, c'est-à-dire tous les représentants de toutes les provinces, non seulement de l'Empire, mais d'abord de tous les États héréditaires. On les réunit en Flandre, à Bruxelles. Les 17 provinces ont envoyé leurs députés. Également le roi d'Angleterre, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que Philippe avait épousé Marie Tudor. Donc il était devenu, par alliance, il était devenu le roi d'Angleterre. Considérant, disait l'empereur dans la lettre qu'il adresse au gouverneur, au président, chancelier, etc. de son empire, « considérant l'indisposition de ma personne, qui ne me permet dorénavant de voyager et de faire la peine requise, est telle que jusque à présent est prise pour le bien, défense et préservation de mes pays et par de ça, et des bons sujets, dit ceux, eh bien, l'empereur annonçait, en tout cas le roi d'Espagne et des possessions, annonçait sa décision de se retirer. Alors il y a une impressionnante cérémonie. « Sa Majesté l'Empereur !» crie le grand chambellan. Vous imaginez le brouhaha qui s'élève dans la salle des États généraux au moment où s'avance Charles, vêtu de deuil à cause du récent décès de sa mère. Sur son pourpoint noir scintille le collier de cérémonie de la Toison d'Or, bien entendu. Et d'ailleurs, tous les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or ont fait le voyage jusqu'à Bruxelles ce jour-là. Et il va se déposséder, chose quasi unique dans l'histoire, tellement rare et, à mon avis, si vous permettez, je trouve assez admirable, il va se déposséder, il va déposer le pouvoir en faveur essentiellement de son fils. Après quoi, eh bien, il ira s'installer quelque temps au bord de la mer, il partira pour l'Espagne en attendant que sa maison soit terminée et ira s'installer, comme vous l'avez compris, au monastère de Yust.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions, par mail sur europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la fin de vie de l'empereur Charles Quint.
Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'empereur Charles Quint et à sa retraite dans ce monastère de Yust.
Alors, comment vit-il dans son monastère? Oh, d'une manière extrêmement réglée, vous pouvez l'imaginer. Il n'obéit pas tout à fait à la règle des frères hiéronymites, mais il n'en est pas très loin du reste. Et vous savez qu'il a été question pendant très longtemps qu'il entre carrément parmi eux, hein, qu'il soit à son tour ordonné. Dès son réveil, il passe à table, ça je vous ai dit, c'est son seul plaisir dans la vie, mais il est fort, la table est très importante, c'est son premier repas. Évidemment, ce ne sont pas les harengs, les poissons salés, le gibier qu'il déglutit littéralement, qui vont arranger ses crises de gouttes. Assez tôt, après ce déjeuner, entre son confesseur, qui s'appelle le père Regla, Et ce confesseur devient peu à peu une sorte de directeur de conscience. Je vous ai dit qu'il est là pour se préparer à mourir d'une certaine manière, avec une espèce de sagesse et de sérénité incroyable. Alors il fait dire chaque jour 4 messes pour l'âme de son père, de sa mère, de sa femme, et puis pour la sienne. Il assiste généralement à la dernière de ces messes, et il n'est pas rare qu'il assiste à une seconde messe dans le cours de la journée. Il est à peu près 8h30-9h du matin à ce moment-là, donc vous allez me dire, mais que fait-il ? Eh bien, il gère sa correspondance. 4 secrétaires arrivent dans son cabinet et il va devoir dépouiller son courrier, répondre, se tenir au courant. Il continue de recevoir, c'était sa volonté expresse, l'ensemble des dépêches comme s'il régnait encore. Et ça, c'est très extraordinaire d'imaginer ce souverain qui n'a plus d'autre autorité que morale et que d'ailleurs son fils se garde bien de consulter sur les grandes affaires et qui lui continue à se renseigner, à se tenir au courant de la marche du monde et des affaires. Pour un homme en repli, pour un homme en retrait et sur le départ, vous avouerez que c'est assez étrange cela. Il a noirci des pages et des pages de courriers qui sont très importants, qui sont essentiels pour comprendre la diplomatie de cette époque et qu'on retrouve dans un certain nombre de fonds d'archives à travers l'Europe. Tout ça le tient généralement jusqu'à ce qu'on appelle à l'époque le dîner, qui est notre déjeuner à nous, vous savez. Alors, généralement, pendant ce dîner, on cause de religion, essentiellement. Il y a d'ailleurs une lecture pieuse qui est faite vers la fin du repas. Et puis après quoi, l'empereur se retire dans sa chambre et fait tout de même la sieste. Vous avez bien compris qu'il est très fatigué. Et dès qu'il a fini la sieste, de nouveau, sermon, prière. Et lorsqu'il le peut, 3 fois par semaine, il se rend à la grand-messe de l'église. On se dit que la vie de Sa Majesté, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Kirada qui a laissé toute une relation de la vieillesse de Charles Quint. Il nous dit « La vie de Sa Majesté est la plus délaissée, la plus triste qui se soit jamais vue. Personne ne pourrait la supporter si ce n'est ceux qui abandonnent leurs biens et le monde pour devenir moines. » Mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'était bien l'intention de Charles Quint que de vivre en tout cas une existence tout à fait monacale. Alors, en 1558, l'année suivante, donc en février, alors que ses 2 sœurs sont parties faire un pèlerinage à Guadeloupe, il apprend la mort. Ça va être terrible pour lui. Il apprend la mort d'Éléonore, donc celle qui avait été l'épouse de François Ier. Ça, c'est un coup, vraiment. Ça l'abat considérablement. L'empereur, qui déjà ne marchait plus, décide qu'il ne fera plus de promenade. Il se recroqueville sur lui-même, si je puis dire. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'intense déprime, quasiment de phase de dépressive. En voilà un exemple. On est là donc au tout début du mois de mars 1558 et l'empereur va vraiment très bien. Le 2 mai, raconte Edmond Giscard d'Estaing, arrivait à Yuste la nouvelle que les 7 électeurs palatins avaient enfin élu empereur Ferdinand Ier, donnant un successeur à Charles Quint qui, depuis le 22 octobre 1555, avait successivement résigné la grande maîtrise de la Toison d'Or, la souveraineté des Pays-Bas, les couronnes de Castille, de Léon, de Grenade, de Sardaigne, d'Aragon et de Sicile, les grandes maîtrises de Santiago, de Calatavra et d'Alcantara, la seigneurie des Indes et les îles des terres fermes de l'océan et dignité impériale. Et bien voilà, cette dignité impériale a maintenant officiellement un successeur, ce sera bien Ferdinand. Cette nouvelle, nous dit Edmond Giscard d'Estaing, le combla de joie. Elle mettait un terme à cette longue série de renoncements par lesquels il s'était dépouillé de toutes ses charges, de tous ses titres, de toutes ses fonctions. Il était désormais remplacé partout, libre de tout autre souci que celui de son salut. Et c'est à ça que seront consacrés ces derniers jours, avec tout de même une dernière joie en ce monde, si je puis dire, puisque le 1er juillet 1558, on va voir arriver au monastère un garçon de 13 ans qui se trouve être le fils naturel de Charles Quint et de Barbe Blomberg. Quand je vous disais qu'il avait quand même plu à certaines femmes, ce fils naturel s'appelle Geronimo, mais on le rebaptise tout de suite Don Juan, et ce Don Juan, c'est Don Juan Ferdinand d'Autriche, s'il vous plaît. C'est ce seigneur magnifique, c'est ce grand guerrier qui va mener la Sainte Ligue lors de la célèbre bataille navale de Lépante en 1571. Eh bien, non seulement Charles l'a reconnu, non seulement il le fait venir auprès de lui, mais il va même l'installer ici au monastère. Ça adoucira, si je puis dire, ces derniers jours, avec vraiment beaucoup de souffrance, car la maladie se fait vraiment très vive dans les premiers jours du mois de septembre. L'empereur n'a plus qu'une consolation, c'est de regarder ses montres. Vous savez qu'il collectionnait, il avait une extraordinaire collection de montres. Et à 2h du matin, le 21 septembre, il sentit que ses derniers moments approchaient. Alors, il demanda aux religieux qu'on lui récita les litanies des agonisants. Il n'a même pas pu entendre tout à fait la fin. « C'est le moment, dit-il, Jésus. » Après quoi, il expira. Nous venons de vivre, Jean-François Saulnon, bonjour.
Bonjour.
Nous venons de vivre la mort, si je puis dire, de Charles Quint, en tout cas ces derniers jours, cette fin, cette espèce de d'éteinte progressive. Nous allons maintenant revivre sa vie en votre compagnie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Charles Quint, avec votre invité Jean-François Saulnon, historien, auteur notamment de « Quand la Franche-Comté était espagnole » aux éditions Fayard.
Alors justement, Jean-François Saulnon, il faut que nous revenions un peu sur tous ces territoires. D'abord, un mot de la fin de Charles Quint, cette espèce de renonciation à tout progressivement, comme ça il se retire, il s'éloigne, il s'éteint.
C'est ce dépouillement qui est extraordinaire et qui est inédit, parce que je pense que les contemporains avaient oublié l'abdication de Dioclétien plusieurs siècles avant et ne pouvait pas connaître l'abandon du sacerdoce suprême de Benoît XVI dans notre siècle. Donc l'événement est absolument extraordinaire. Il donne l'impression d'être soudain, mais dans les milieux éclairés, on savait déjà depuis plusieurs années que Charles Quint songeait à se retirer de la vie politique, abandonner ses différents territoires qui sont innombrables. Et c'est votre question.
Alors oui, voilà, ces territoires, c'est d'ailleurs, ce n'est pas seulement ma question, c'est César qui nous pose une question via Twitter et qui dit « Mais comment ces Pays-Bas pouvaient-ils être espagnols sans qu'il y ait de continuité territoriale ?»
Écoutez, César mérite bien son nom pour parler, pour parler de l'empereur, puisqu'il s'agit d'un homme qui a réussi à recevoir quantité d'héritages par le jeu de mariage, de décès forcément pour en hériter.
D'héritage, disons. Hein.
D'héritage. D'autant que c'est une des caractéristiques de la maison des Habsbourg tout au long de son existence, j'allais dire jusqu'à la mort de François-Joseph ou de l'empereur Charles, le dernier empereur. Vous savez, il y avait même une citation que l'on faisait très souvent en latin. On disait « D'autres font la guerre, toi, heureuse Autriche, c'est-à-dire maison des Habsbourg, toi, heureuse Autriche, Marie. » C'était l'impératif. « Tout Félix Austria, nubé. » Et les Habsbourg se sont pliés très largement à cette pratique. Et c'est ce qui est arrivé à Charles Quint. Charles Quint a d'abord hérité de ce qu'on appelait les Pays-Bas, dans les expressions du temps assez amusantes d'ailleurs, de pays de par-de-ça ou des pays de par-de-là. De quoi s'agit-il? Mais il s'agit des Pays-Bas, en gros, nord de la France, Belgique, Luxembourg et Hollande, incomplète. Et puis aussi de la Franche-Comté, qui était le dernier lambeau de l'héritage bourguignon de Charles le Téméraire, son arrière-grand-père. Et ensuite, ça a été la Castille et l'Aragon, avec toutes les dépendances, Sicile, Sardaigne, etc. Puis, ça a été les états patrimoniaux des Habsbourg en Europe centrale, Styrie, Carinthie, Carniole, Tyrol, Haute-Alsace.
Vous dites tout ça sans note, je précise pour nos auditeurs.
Et puis, il y a bien entendu, couronnant le tout, l'élection comme empereur du Saint-Empire romain germanique.
Mais justement, cette Bourgogne qui avait été au cœur, en quelque sorte, des possessions de ses aïeux, elle était devenue française et elle sera l'obsession de Charles pendant tout son règne.
À la mort de Charles le Téméraire, dont le corps a été dévoré par les loups devant Nancy en 1477, à sa mort, les territoires qui sont situés aujourd'hui en Bourgogne et en Franche-Comté sont partagés en deux. Le duché de Bourgogne, tout ce qui est à l'ouest de la Saône, revient au roi de France et c'est naturel, c'était un apanage Par conséquent, en droit féodal, le roi de France hérite de ce duché de Bourgogne sans difficulté. En revanche, le comté de Bourgogne, ou Franche-Comté, ce qui est à l'est de la Saône, reste patrimoine des Habsbourg et par conséquent de Charles Quint. Et Charles Quint est attaché à cette Franche-Comté parce que c'est le dernier lambeau.
Alors nous l'appelons Charles Quint, mais pour l'instant, à l'époque, il n'est encore que le roi Charles Ier d'Espagne.
Pour les Pays-Bas, le seigneur naturel des Pays-Bas, une expression vague à dessein.
On ne sait même pas exactement quel est son titre, exprès. Bon.
Disons qu'ils sont trop nombreux.
Voilà, c'est ça, oui, il en a un très grand nombre. Et il est le roi d'Espagne, une Espagne extrêmement étoffée, nous l'avons maintenant compris, ce qui veut dire qu'il est le concurrent naturel du roi de France, un roi de France qu'il y a 5 siècles est le jeune François Ier. Donc deux jeunes hommes, il faudrait aussi ajouter un troisième qui est Henri VIII en Angleterre, mais on va le mettre de côté pour le moment. Il y a ces deux personnages qui vont se livrer un véritable bras de fer. Or, en 1519, on élit l'empereur du Saint-Empire germanique, car c'est une monarchie élective, et qui gagne.
Alors le débat existe, il n'est pas insignifiant. Le roi d'Angleterre est en effet candidat, il y a un électeur de Saxe qui l'est aussi, mais il est vrai que le grand duel politique, c'est entre François Ier et Charles Quint. Alors il faut faire des promesses aux 7 électeurs, 4 laïcs et 3 ecclésiastiques de l'Empire. On fait des promesses. François Ier dit, je règne, moi, sur un royaume qui a des ressources financières. Et par conséquent, je pourrais, avec ces ressources, défendre la chrétienté contre le péril turc, contre le péril ottoman. Et on s'interroge, les électeurs s'interrogent pour savoir, mais qui de l'un et de l'autre est le plus allemand? Or, c'est une question stupide parce que ni l'un ni l'autre ne le sont.
Évidemment. Hein,
Charles est né à Gand. Sa langue maternelle, c'est le français. Puis un petit peu le flamand. François Ier, tout règne.
Il est hispano-bourguignon.
Par conséquent, il n'y a aucun Allemand. Mais Charles a un avantage supplémentaire, c'est qu'il appartient à la dynastie des Habsbourg, qui règne de manière continue depuis le XVe siècle sur le Saint-Empire. Et puis aussi, c'est que les voix des électeurs doivent être achetées.
Et évidemment. C'est
alors,
au plus
évidemment,
offrant.
Aujourd'hui, ça nous hérisse le poil. Mais à l'époque, c'était des choses qui étaient connus, qui étaient tout à fait
habituel,
à la portée de chacun, habituel en effet, et normal. Mais on fait des promesses de dons. Alors Charles a réussi, grâce à ses amis allemands, à trouver un subterfuge. Il était interdit au roi de France de lever des fonds, des subsides, en Allemagne. Sauf à passer par les grands banquiers d'Augsbourg. Mais les banquiers d'Augsbourg, les Fugger, les Welser, étaient dans la main de Charles de Habsbourg.
Et de sa tante, en fait.
Par conséquent, il n'était pas question d'emprunter. Il fallait donc faire venir cet argent de France. Oui, mais on a interdit le transport des espèces monétaires, sous peine de mort. Par conséquent, pour faire passer de l'argent, eh bien, on avait constitué des sacs qu'on avait accrochés à des navires. Et le long du Rhin, on traînait, submergé par les eaux, ces sacs remplis de pièces d'or et d'argent, comme des filets dérivants, si vous voulez. Et lorsque l'argent a été versé, Charles a eu une astuce supplémentaire, c'est qu'il s'est, lui, servi de lettre de change, payable après l'élection. Alors, les historiens se sont interrogés pour savoir, mais ça représentait combien d'argent tout ça? Ça représentait des milliers de florins.
Oui, même des
alors
millions.
On a fait une sorte de transcription en poids d'argent. Eh bien, je vous annonce que François Ier a dépensé 1,5 tonne d'argent pour une élection qui s'est soldée pour lui par un échec, tandis que Charles de Habsbourg a dépensé 2 tonnes d'argent. Ça fait rêver.
Eh oui, n'est-ce pas? Alors, il y a eu beaucoup de magouilles, disons, dans cette élection. Il n'empêche, en 1519, Charles devient l'empereur. Il est donc maintenant non seulement à la tête de tous ces territoires espagnols dont nous parlions, mais également empereur du Saint-Empire germanique. Il est, on peut dire, le premier prince de la chrétienté. Et il entend bien assumer cette dimension chrétienne, d'ailleurs.
C'est une moitié de Dieu, comme disait Victor Hugo. Il y a deux moitiés de Dieu. Il y a le pape pour l'autorité spirituelle, et il y a l'empereur pour l'autorité temporelle.
Le blanc et le noir.
Et la charge de l'empereur, c'est justement de tenir ensemble tous ces états qui constituent la chrétienté, parce que la chrétienté est encore une réalité. On ne dit pas Europe à l'époque. Le mot d'Europe va arriver un petit peu plus tard. Et cette chrétienté, elle a à se défendre contre d'éventuelles hérésies, et puis contre un péril qui est celui de l'islam.
Eh bien ça, ce sont les deux grands sujets. On va voir tout le restant de l'existence de Charles Quint partagé en quelque sorte entre la lutte intérieure contre les protestants et la lutte extérieure contre les turcs. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Jean-François Saulnon, historien, auteur notamment de La Cour de France, qui a été réédité en format poche aux éditions Tempus.
Alors, Jean-François Saulnon, les deux grands ennemis de Charles, d'abord l'infidèle, c'est-à-dire, grosso modo, les Turcs, on va dire, en tout cas, tous les musulmans du pourtour du bassin méditerranéen.
Oui, et qui appartiennent à un empire gigantesque et un empire extrêmement bien administré et qui est doté surtout d'une armée de janissaires qui est la première armée du temps. Et avec la volonté de la part des Turcs de faire la conquête de terres chrétiennes. C'est le Dar al-Islam, la maison de l'islam doit s'étendre jusqu'à ces territoires qui ne sont pas encore convertis à la religion de Mahomet. Et les Turcs sont en pleine ascension, ils ont pris Constantinople en 1453, mais cette fois-ci, cet horizon du Bosphore est largement dépassé, puisqu'ils ont pénétré dans les Balkans, et là, ils vont s'approcher de la vallée danubienne, et par conséquent, c'est le cœur de la chrétienté qui est en cause.
Là, ça devient dangereux.
Tout à fait. Et ils ont pu le faire grâce à l'extraordinaire personnalité d'un homme qui arrive au pouvoir à peu près en même temps que Charles Quint. Hein, c'est Soliman le Magnifique en 1520. Et Soliman remporte immédiatement, dès la première année de son règne, deux immenses victoires. L'une en Méditerranée orientale, c'est la conquête de Rhodes sur les chevaliers de Saint-Jean. Et l'autre, c'est Belgrade. Alors, Belgrade, c'est ce que n'avait pas pu faire Mehmed II, le vainqueur de Constantinople. Mm-hmm. Cette fois-ci, Belgrade, avec sa forteresse, est tombée. Et lorsque Belgrade tombe, c'est toute la plaine hongroise qui s'ouvre à l'ennemi.
Bien sûr.
Alors là, c'est une succession de victoires.
De victoires pour les Ottomans.
Victoire pour les Ottomans. En 1526, c'est une date qui nous dit rien, nous, en Occident, mais que tous les élèves d'Europe centrale connaissent bien. C'est la victoire ottomane de Mohács, c'est-à-dire la disparition de l'armée hongroise, du roi de Hongrie, Louis II, qui avait épousé d'ailleurs la sœur de Charles Quint, Marie, d'où Marie de Hongrie. Et après cette bataille et cette victoire ottomane de Mohács, on peut filer sur Budapest n'existe pas encore, oui. C'est Buda d'un côté, Pest de l'autre, et mettre le siège devant Vienne en 1529. Là, Charles Quint n'est pas présent à Vienne, il est très occupé par ses démêlés avec le roi de France, François Ier, et les Ottomans arrivent devant Vienne. Alors vous imaginez, pour les Viennois, pour la première fois, ils voient la ville encerclée par plus de 100 000 hommes avec une trentaine de chameaux, ça devait être un spectacle éprouvant pour tous ces habitants. Et ce qui sauve les Viennois, et par conséquent la chrétienté, c'est que l'arrivée devant Vienne est tardive dans la saison, c'est au mois de septembre, et il se trouve qu'il neige le 15 octobre.
Mais du point de vue de Charles Quint, qui se trouve à ce moment-là à Valladolid, ou enfin, je ne sais pas, enfin, dans une des grandes Toledo, une des grandes villes de l'Espagne, il faut gérer tous ces problèmes en même temps, si je puis dire.
Oui, avec une remarque tout de même, c'est que depuis 1522, il a
délégué,
créé comme fondé de pouvoir son frère Ferdinand. Et c'est encore un des paradoxes.
Pour tout ce qui concerne l'Autriche, là-bas.
Assez fascinant, d'ailleurs, de l'histoire de Charles Quint et des Habsbourg en général. C'est que Charles Quint est né à Gand, il est donc flamand de naissance et il va régner sur l'Espagne, alors que son frère Ferdinand, qui est son cadet de 2 ou 3 ans, sauf erreur de ma part, est né en Espagne, a été élevé en Espagne, donc il parle le castillan, et lui, il est envoyé par Charles dans les pays héréditaires de la maison des Habsbourg, comme s'il se préparait à exercer des fonctions suprêmes qui seront celles de l'Empire.
La volonté de Charles Quint, c'est de lancer une véritable croisade contre les Turcs. On est vraiment dans cette idée-là. Hein. Il faut soulever la chrétienté contre les Turcs.
Oui, ça rentre dans cette histoire et dans cette idée de monarchie universelle. Il y a un homme qui lui a soufflé cette idée, c'est un juriste piémontais qui s'appelle Ambrogio Gattinara, qui est passé par plusieurs postes.
Il n'est pas un tendre, hein, qui fait une sorte de Machiavel espagnol.
Oui, et c'est quelqu'un qui considère que la monarchie universelle doit appartenir aux Habsbourg. Et la fondation de cette monarchie, c'est d'unifier tous les États chrétiens, ce dont on ne veut pas entendre parler François Ier. En France, le roi de France est empereur en son royaume. Hein, ce serait de les unifier, de faire de Charles Quint l'animateur de cette chrétienté pour mieux lutter financièrement, militairement, contre les Turcs.
Et d'abord, contre le bras armé de ces Turcs en Méditerranée, c'est-à-dire ces barbaresques, hein, ces pirates d'Alger, en fait.
Oui, d'autant que ces barbaresques, ils occupent d'abord la Méditerranée orientale. Mais il y a des barbaresques qui sont en quelque sorte les supplétifs de l'armée ottomane, qui font des razzias, des raids contre les côtes méditerranéennes de l'Espagne, contre le royaume de Valence, ou même contre les côtes italiennes. Et là, l'idée, eh bien, c'est de réussir à juguler cette pression et cette menace des barbaresses, dont le plus célèbre est donc Barberousse. C'est toute une dynastie d'ailleurs, oui, hein, sûr, de ces gens-là. Et Charles Quint décide, eh bien, de s'emparer de Tunis. Pour les Espagnols, c'est du temps perdu. Parce que pour les Espagnols, c'est trop loin, Tunis. Il vaudrait mieux qu'ils s'intéressent à Alger. Alors, ils s'intéressent d'abord à Tunis. Ils remportent une victoire considérable en 1535. Ce qu'il faut comprendre, au-delà même des événements militaires, c'est que cette victoire de Charles Quint et donc de la chrétienté à Tunis s'est soldée par une traversée par l'empereur de toute l'Italie du sud vers le nord avec des entrées triomphales dans les villes comme les empereurs de la Rome antique. C'est le nouveau Scipion l'Africain.
Porté en triomphe.
Oui, alors on passe sous l'arc de Constantin à Rome et puis après on construit des arcs de triomphe en carton-pâte, crée des tapisseries, bref, on magnifie l'événement.
D'une façon générale, cet homme n'aura cessé de voyager, il est toujours à cheval, il a pas travaillé, et pour cause d'ailleurs.
On a fait l'étude, jour sur quatre il est en voyage.
C'est incroyable.
Et on dit volontiers, alors lui-même l'a dit, avec une sorte de forfanterie d'ailleurs, au moment de son abdication que vous évoquiez tout à l'heure, il a dit « je suis allé 9 fois en Allemagne, 7 fois en Espagne, 6 fois... »
Il faut se remettre dans le contexte du XVIe siècle.
4 fois en France, 2 fois en Angleterre, oui, dans les conditions de transport de l'époque.
Bien sûr.
Et on a même calculé, il y a des historiens qui aiment les chiffres, hein, vous le savez bien, on a même calculé qu'il aurait pu dormir dans plus de 3000 lits s'il n'avait emporté le sien.
Le sien, oui, parce qu'il dormait dans son propre lit, en fait, dans sa propre litière. Cet empereur Charles va lutter donc pour la chrétienté à l'extérieur, si je puis dire, mais pour ce qu'il considère comme la chrétienté à l'intérieur aussi. Parce qu'on est au moment où se manifeste la réforme. Donc ça, il faut expliquer à quel point ça va être essentiel dans tout son règne.
Si Charles Quint n'avait eu à lutter que contre le roi de France.
Oui, parce que ça, entre parenthèses, on le met entre parenthèses aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il s'est battu toute sa vie contre François Ier, puis contre son fils Henri II.
C'était l'obsession de François Ier réciproquement.
Ah, oui,
Donc, s'il n'avait eu que ce débat-là et ce combat-là, ça aurait été un règne, j'allais dire, comme un autre.
Oui,
mais ce qui fait l'originalité du règne de Charles Quint, de ce long règne, vous avez dit très justement qu'il était populaire à la fin de son règne, malgré la longueur de son règne, ce qui n'est pas donné à tous les souverains, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est la lutte contre les Turcs et la lutte contre ce qu'on appelait l'hérésie protestante, et dans un premier temps luthérienne, qui font l'originalité du règne. Oui, parce que lorsque Charles devient roi d'Espagne, en 1516, quand je dis d'Espagne, c'est pour faire vite, n'est-ce pas? Roi de Castille, etc. Et puis empereur en 1519, ben c'est le moment où Luther va se manifester et va, sinon afficher, du moins faire connaître ses 95 thèses accrochées à la porte de la chapelle de Wittenberg. Et c'est d'autant plus intéressant que derrière cette porte de chapelle, il y a énormément de reliques. Et ces reliques qui permettent, si on sait les prier correctement, si on sait se les
appaudrir, oui.
Et c'est ça, d'intercéder et d'obtenir en quelque sorte des indulgences. Alors, Charles Quint, on va l'appeler comme ça, Charles Quint est confronté à cette nouveauté. Dans un premier temps, on pense que tout ça va se terminer. Il y a eu d'autres hérésies dans l'histoire de l'Église à l'époque
même
médiévale.
Oui.
Pensez à Jean Hus en particulier, qui a remué toute l'Europe centrale. Mais là, évidemment, les choses vont être pérennes. Et pérenne, c'est-à-dire que Luther va se manifester à plusieurs reprises, va écrire des ouvrages de grande qualité qui sont des succès de librairie, d'ailleurs par parenthèse, en 1520, 1521.
La toute nouvelle librairie, puisque c'est le tout début des livres
imprimés. Et là, il y a des éditions qui s'envolent en quelques semaines. Et par conséquent, il y a une diffusion très très rapide du luthéranisme à travers l'Europe, centrale, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne. Et Charles Quint, face à cette nouveauté, va avoir une attitude qui sera plutôt, je dirais, érasmienne. C'est-à-dire, il faut discuter. On va réunir des colloques.
C'est ouvert.
Charles Quint n'a pas de connaissances théologiques. Il n'y connaît rien. Il a une foi sincère, une foi qui passe par le respect des rites, mais il n'est pas en mesure de débattre de points aussi importants que la transsubstantiation, la consubstantiation, la présence réelle ou la présence spirituelle du Christ dans les hosties. Par conséquent, il préfère ouvrir des colloques, mettre en présence, et d'ailleurs Luther a plaidé devant lui, plutôt que de recourir à la manière forte, en tout cas dans un premier temps. Puis les choses vont se crisper, évidemment. Des princes allemands vont se convertir au luthéranisme. Et ça, c'est un aspect politique, parce qu'ils avaient intérêt à confisquer des biens de l'Église. Ils vont créer même une ligue, qui s'appelle la ligue de Smalkalde, qui est une petite ville qui est au sud de la Hesse aujourd'hui. Et Charles Quint va être obligé de rencontrer ces ligueurs, et il va remporter une victoire, on en a le témoignage par un superbe tableau de Titien, à Mühlberg en 1547. L'histoire se déroule, elle est extraordinairement compliquée, il y a des rebondissements innombrables, jusqu'à un point d'orgue, qui est celui de la paix d'Augsbourg de 1555, qui est la reconnaissance de l'existence du luthéranisme en Allemagne, pas du calvinisme, qui est considéré encore comme une secte hérétique, mais du luthéranisme, et en particulier avec ce fameux principe « tel prince impose sa religion à ses sujets ». Et cette paix d'Augsbourg, c'est un drame pour Charles Quint. Ça montre que Charles Quint n'a pas réussi son pari, n'a pas réussi à maintenir l'unité de la chrétienté, et c'est une des raisons qui vont le pousser à l'abdication.
Il est en quelque sorte en face de 16 échecs dans beaucoup de domaines.
Et ils sont très
nombreux. Il n'a pas récupéré la Bourgogne, il n'a pas du tout assis la chrétienté universelle, il n'a pas repoussé vraiment l'infidèle, en tout cas pas durablement, puisqu'il a finalement perdu en 1541. Il n'a pas du tout tenu la dragée haute à François Ier, il n'a pas réussi à extirper l'hérésie de ses propres territoires. Ça fait beaucoup d'échecs pour un seul homme.
Et si vous ajoutez, brochant sur le tout, la mauvaise santé, la maladie, et un détail tout de même important, il s'est réfugié à Yuste. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est une région qui est infestée de paludisme. Et Charles Quint est mort aussi de paludisme. Donc si vous ajoutez sa mauvaise santé et ce qu'on appelait à l'époque la mélancolie, ce que l'on traduit aujourd'hui par dépression.
Oui. Alors justement, qu'en était-il? On le voit notamment lorsque François Ier trahit sa parole après la signature du traité de Madrid en 1526. On voit, sous la plume de plusieurs ambassadeurs, un empereur Charles complètement abattu, pleurant littéralement devant les ambassadeurs, etc. Était-il vraiment dépressif?
Oui, mais comme souvent, ça se manifeste par crise. Et s'il est dépressif en 1526 parce qu'il voit que le très chrétien ne respecte pas sa parole, n'est donc pas un chevalier,
c'est ça, oui. Hein,
parce que lui a encore cette
idée. Il l'a d'ailleurs proposé qu'on joute. Hein, oui.
Exactement. À deux reprises, Charles Quint va provoquer François Ier en un combat singulier en disant « mais les populations, nos peuples n'ont rien à voir avec
nos
querelles et par conséquent il faut en débattre sur le pré, si j'ose dire, vous et moi ».
Inutile de dire que François Ier n'est pas pressé du tout de répondre
et pourtant,
à ce genre de
choses. Et pourtant, c'est deux hommes qui ont un physique tellement différent. François Ier est
un géant. Côté, oui.
Charles Quint est un petit monsieur avec ce prognatisme dont vous parliez, qui a quand même beaucoup frappé tous les contemporains, les ambassadeurs. Sa mâchoire inférieure ne se ferme pas, il a toujours la bouche ouverte, ce qui l'a fait passer pour un idiot pendant très longtemps. Son élocution en est gâtée, et je ne vous parle pas de sa manducation. N'est-ce pas, tous les repas, et Dieu sait s'il était glouton, n'était pas un beau spectacle à voir. Donc on a vraiment deux hommes aux physiques différents, mais il y en a un qui est un hâbleur. J'allais dire, François, c'est pourtant un Valois-Angoulême, mais c'est une sorte de méditerranéen,
oui. Plutôt
hâbleur, faisant quantité de promesses.
Et alors, sachant séduire.
Oui, et puis ne tenant pas ses promesses et décevant ses interlocuteurs. Et puis nous avons Charles Quint, qui lui est un monsieur plutôt austère, qu'on ne remarque pas, même si avant son mariage et après celui-ci, il y a eu quelques aventures d'aller en Silère et qui ont donné naissance tout de même, entre autres, à deux personnages, le Don Juan d'Autriche, le grand militaire que l'on connaît, qui a beaucoup impressionné son demi-frère Philippe II, qui ne l'était pas du tout, et puis Marguerite de Parme, qui est aussi une grande figure féminine du XVIe siècle.
Merci beaucoup Jean-François Solnon. C'était comme d'habitude avec vous, lumineux. Il y a beaucoup d'ouvrages sur Charles Quint, bien entendu. L'un des plus récents, c'est Charles Quint, l'indomptable de Lindsay Armstrong, qui a été publié chez Flammarion dans la collection Grande Biographie. Ça ne nous efface pas le souvenir du merveilleux Charles Quint de Philippe Erlanger, du reste, hein, qui est un ouvrage tout à fait brillant. Et puis, sous votre plume, Jean-François Solnon, réédité dans la collection de poche des éditions Perrin chez Tempus, La Cour de France, donc ce livre, ce maître-livre en quelque sorte sur l'histoire de la cour en France, et puis apparaître, ce sera bientôt également chez Perrin, L'homme derrière le monarque, vous avez appelé ça Le goût des rois, c'est la vie privée des rois de France. Ça c'est passionnant, ça nous promet de belles émissions en perspective.
Pourquoi pas, je suis à votre disposition.
Et ce sera publié le 5 février prochain, donc à partir du début du mois de février, cette vision intime des rois de France, en quelque sorte côté jardin, par Jean-François Solnon. Merci beaucoup.
Dans Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Julien et Sophie. Tous les deux vous demandent, Franck, depuis quand nous tirons les rois ?
Alors, vous allez voir, depuis pas si longtemps que ça. C'est à l'occasion de la fête de l'Épiphanie, bien entendu, vous savez, le 6 janvier. Je racontais d'ailleurs ce matin même, dans la matinale de Thomas Otto, ce qui s'était passé le 5 janvier 1757, l'assassinat ou la tentative d'assassinat de Louis XV par Damien, qui s'inscrivait dans le cadre de ces festivités-là. Alors, la fête de l'Épiphanie commémore, vous savez, l'arrivée, je dis vous savez, tout le monde ne sait pas forcément d'ailleurs, Epiphaneia en grec, ça veut dire l'apparition, donc c'est l'arrivée des rois mages en Judée, dans certains pays, dont la France, puisque le 6 janvier n'est pas férié. On a pris l'habitude de célébrer l'Épiphanie le premier dimanche du mois. Si vous vouliez manger de la galette, c'était donc hier, entre nous soit dit. Hein. Mais enfin bon, je crois que maintenant, avec l'extension commerciale de tout ça, on peut continuer pendant presque tout le mois, hein, à bouffer de la galette. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, d'où ça vient tout ça? Rappelez-vous que dans la Rome antique, et j'en parle assez régulièrement, il y avait au tout début de l'année, enfin à ce moment du passage du mois de décembre au mois de janvier, les fêtes, ce qu'on appelait les Saturnales en l'honneur de Saturne, 7 jours de fête au cours desquels on célébrait le solstice d'hiver, bien entendu, et dans chaque grande famille, on avait pris pour coutume d'élire le roi de la journée, le Saturnalicius Princeps, c'est-à-dire le roi qui était choisi parmi les esclaves et les affranchis. Et comment est-ce qu'on le choisissait? En cachant une fève dans un gâteau. Tradition que le Moyen-Âge, d'ailleurs, avait reprise avec la célèbre fête des fous. On désignait de la même façon le roi du festin. Alors on mettait quelqu'un sous la table, vous savez, qui désignait les parts. On distribuait les parts aux différents invités en gardant toujours la part du bon Dieu qui était réservée au premier mendiant qui se présentait. Eh bien, au XIVe siècle, l'Église reprend tout ce rite païen de la galette à son compte, l'installe, si je puis dire, à l'Épiphanie. Et c'est donc à partir du XIVe siècle qu'on se met à fêter les rois. Alors au départ, les fèves étaient, comme leur nom l'indique, de simples fèves, hein, végétales. Et puis petit à petit, on s'est mis à mettre des petites figurines, etc. À la cour de France, on avait des fèves qui étaient carrément de véritables joyaux, hein, réalisés par les plus grands orfèvres.